Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
L'avenir arrivera-t-il ? Il semble qu'on peut presque se faire cette question quand on voit tant d'ombres terribles, sombres face à face des égoïstes et des misérables. Il y a un réveil de l'utopie. Comment sortir de l'impasse ? Comment rêver un autre monde possible ? Comment mettre fin à ce système de domination du monde par le profit et la prédation capitaliste sans avoir des moyens ? Il reste tant à démolir et tant à inventer.
Il reste tant à démolir et tant à inventer. Avant évidemment que tout ne s'écroule définitivement, ce qui ne saurait tarder, et ce qui pourrait d'ailleurs contribuer à expliquer l'actuel grand retour des utopies. Les utopies, sujet de la seconde partie de cette émission autour d'un article du Monde diplomatique avec notre ami André, notre prof d'histoire géo préféré. Mais avant cela, dans quelques instants, retour vers la lutte contre cette énième déforme des retraites avec notre ami Philippe. Philippe qui est notamment membre d'Attaque et des Amis du Monde diplomatique et qui s'échine ici à combattre point par point les mensonges invoqués par les larbins du capitalisme qui ont accédé au pouvoir et qui, quoique bien mal élus et malgré l'hostilité d'une écrasante partie de la population, s'acharnent à détruire notre système de retraite, ce pan de notre sécurité sociale qui est notamment un héritage de la résistance au nazisme, c'est-à-dire un héritage des communistes français porté par Ambroise Croizat, courageux ministre du Travail qui en 1946, seul contre tous, y compris contre les socialistes de l'époque, Croizat imposa notre système de sécurité sociale. Et à l'époque, payer des vieux qui ne travaillent pas, c'était une utopie qui est devenue réalité grâce aux efforts de Croizat, comme on va tout de suite l'évoquer avec ce jeune manifestant croisé dans la rue le 30 mars 2023. Salut les amis, c'est JBD, c'est la voix off. Il reste tant à démolir et tant à inventer.
Est-ce que je peux te demander de lire la pancarte du copain, s'il te plaît ?
Ambroise Para 2027.
Non, c'est pas Ambroise Para.
Oui, Ambroise Croizat 2027.
Ambroise Croizat 2027. Bonjour Élie.
Oui, bonjour.
Qui est Ambroise Croizat ?
Qui est Ambroise Croizat ? Ambroise Croizat, c'est un type vraiment génial qui était ministre du Travail 1945-1946. C'est cet homme qui a installé la sécurité sociale ainsi que le système de retraite par répartition et par extension, on va dire, le modèle, on va dire, de justice sociale, en tout cas théorique, à la française. Je voulais lui rendre hommage actuellement. C'est un monsieur auquel on n'a pas fait assez mention, à mon humble avis. Et voilà, quoi. Donc,
Personne connaît son nom, hein. On nous enseigne surtout pas son histoire à l'école. Hein.
Oui, bien sûr. Moi, j'en ai jamais entendu parler au collège, par exemple. J'aime mon pays et j'estime que quand on aime son pays, il faut aimer l'histoire, entre guillemets, des grands, mais aussi des petits. Et en fait, l'histoire quelque part globale. Et se dire que, voilà, la France, c'est aussi ça. C'est le social, c'est... Eh bien oui, c'est la défense, on va dire, de tous et une justice sociale. Et par conséquent, je suis là pour défendre ça parce qu'il y a des gens qui sont contre nos intérêts, qui sont au MEDEF, qui sont à la Commission européenne, qui sont contre nos intérêts. Et par conséquent, il faut défendre des acquis, il faut même faire des conquêtes sociales.
Donc Ambroise Croizat 2027.
Ah bah oui, j'ai mis Ambroise Croizat 2027 parce que la situation politique, malheureusement, et électorale surtout, est tellement déplorable. Que, bon, c'est une petite touche humoristique, ça veut pas dire que tous les hommes politiques sont malhonnêtes, ce n'est pas ça évidemment le propos, mais je pense qu'il faut aussi remettre en question, je pense, le système politique actuel, le système électoral, et rappeler qu'on peut réfléchir à d'autres solutions, comme par exemple le référendum d'initiative citoyenne, ou pourquoi pas, éventuellement, quitte à rester dans le système des partis, réfléchir à une évolution, voilà, donc...
Non, mais j'y crois pas, mais tu es jeune, normalement c'est un discours de vieux à la retraite, ça.
Ah bah peut-être, oui.
Non, en fait c'est juste une manière un peu sarcastique de dire, putain, mais ça fait du bien de voir la jeunesse dans la
merci
rue,
quoi. Merci beaucoup, ça fait quelques temps déjà que je me mobilise. J'ai manifesté contre le pass sanitaire, j'ai manifesté déjà pour les retraites en 2019, j'ai manifesté pour le climat, j'ai co-organisé des manifs dans ma ville pour l'écologie, tout ça. Beaucoup de thématiques sont liées, qu'on soit pour ou contre d'ailleurs certaines thématiques, je pense surtout qu'il faut permettre au peuple souverain de décider. C'est à nous de décider et c'est à personne d'autre. Voilà. Voilà, vive la République sociale.
Quand la jeunesse est dans la rue, c'est que vraiment ça va mal. Et quand des jeunes se souviennent que c'est aux communistes qu'on doit notamment la sécu, bah là c'est que ça va vraiment pas bien du tout. L'histoire d'Ambroise Croizat et de la sécu, on vous les a déjà racontées dans cette émission. Cherchez Croizat et sécu dans le moteur de recherche de notre site, Polémix et lavoixoff.com.
L'Assemblée nationale constituante,
Ambroise Croizat,
s'est-elle donné le délai nécessaire pour voter parmi d'autres textes d'une importance capitale le projet de généralisation de la sécurité sociale que j'avais eu l'honneur de faire adopter par le gouvernement? Le peuple de France doit savoir que c'est de son effort de production que dépendra en vérité la réalisation pratique de la loi nouvelle, comme en dépend du reste, à tout point de vue, la renaissance de notre pays.
Pour l'heure, vous avez rendez-vous avec notre ami Philippe, grand pourfendeur de propagande patronale et donc gouvernementale.
Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris ment.
Salut Philippe.
Bonjour.
Toujours dans le cadre de cette réflexion sur cette énième déforme des retraites, on va parler finalement de l'objectif du patronat et du capitalisme qui est de casser ce système de retraite publique pour forcer les gens à contribuer à de la retraite privée, c'est-à-dire à confier leur pognon à ce qu'on appelle des fonds de pension.
Pour parler d'un sujet traité aussi bien donc par le monde diplomatique que par Jean-Marie Haribé, ancien coprésident d'ATTAC, professeur agrégé d'économie, sur les fonds de pension. Ce que je vais dire, c'est destiné à démonter un projet mortifère qui avance en catimini derrière la contre-réforme des retraites du gouvernement. Projet mortifère qui en est même, in fine, le véritable objectif. Remplacer la retraite par répartition par la retraite par capitalisation, généraliser et imposer les fonds de pension. La droite sénatoriale, qui a la majorité, a d'ailleurs montré le bout de l'oreille le 5 mars en adoptant un amendement qui vise à étudier, je cite, « les modalités d'instauration d'un régime social applicable à des cotisations versées à un régime d'assurance vieillesse par capitalisation ». Avec toutes ces précautions procédurières, il n'est question que d'un amendement, d'une étude. Avec ses périphrases, ses circonlocutions, la droite LR rappelle l'employé de l'abattoir qui, jadis, caressait le chanfrein de l'animal avant de lui asséner un grand coup de merlin. Ce projet mortifère a bien été décelé par tous ceux qui luttent contre la réforme. Macron, puisque c'est l'objet de l'article du Monde diplomatique de mars 2023 intitulé « Capitalisation, l'autre nom de la réforme des retraites » par Grégory Repski. C'est aussi l'objet de l'article de Jean-Marie Haribé, économiste, professeur agrégé, ancien coprésident d'ATTAC, paru dans Alternative économique du 25 février 2023 et intitulé « Dupont et Dupont, vive la capitalisation ». Je dirais même mieux, vive la capitalisation. Commençons par les prétextes invoqués. Un, le déficit des caisses des retraites est énorme. Faux. Le déficit est faible au début de la décennie 2030 rapporté au montant global des pensions. Il augmente ensuite selon certaines hypothèses du COR, le Conseil d'orientation des retraites. 2e argutie, le déficit des caisses de retraite est dû à la forte augmentation du nombre de retraités dans les années à venir. Faux. Faux d'abord parce que le déficit n'est pas imputable à un excédent de dépenses, salauds de retraités qui vivent vieux, mais une pénurie de recettes. Cette pénurie de recettes est due aux exonérations de cotisations patronales, en partie, mais en partie seulement, compensées par le budget de l'État. L'État dit aux entreprises, écoutez, je vous exonère, mais il dit à la Sécu, je verserai le complément qui fait défaut. ce qui aggrave le déficit de la Sécu en l'absence de hausse des impôts, surtout sur le revenu et sur les entreprises, et l'absence de hausse du taux de cotisation ou le refus d'en élargir l'assiette. Les gouvernements, depuis des années, organisent sciemment le déficit des caisses de retraite et plus largement de la Sécu pour justifier le retard progressif du départ à la retraite, puis l'introduction aussi sournoise que subreptice des fonds de pension. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. C'est faux, ensuite, parce que la mise en avant de ce déficit futur vise à masquer l'objectif de réduction des dépenses publiques et sociales, alors que dans le même temps, les aides aux entreprises sont abondantes et que la fiscalité sur elles et sur les classes riches est allégée. C'est faux, enfin, parce que les hypothèses du COR, le Conseil d'orientation des retraites, sont pour certaines fragiles sur la productivité, sur la démographie, sur l'emploi, sur le chômage, par exemple sur l'emploi des femmes. Ils ne font pas bouger le taux d'emploi des femmes. L'immuabilité du partage salaire-profit, alors qu'il suffirait de quelques points de déplacement entre les salaires et les profits pour combler les déficits. L'immuabilité de la durée individuelle du travail. Poursuivons par les bobards sur les fonds de pension ou la capitalisation. Alors, un bobard, tout le monde pourra souscrire à des fonds de pension. Faux, archi faux. La capacité d'épargne n'est pas proportionnelle aux revenus, car les pauvres et les moins favorisés des classes moyennes ne peuvent presque pas épargner tous leurs revenus passant dans des dépenses de première nécessité. La retraite par capitalisation n'est favorable et ne peut être souscrite que par la tranche supérieure des classes moyennes et les classes au-dessus, bien entendu. En outre, l'intérêt des fonds de pension lorsqu'ils sont placés dans une entreprise est que cette entreprise ait le moins possible de salariés qui travaillent le plus grand nombre d'heures possible pour le plus petit salaire. Je répète, il faut qu'il y ait le moins possible de salariés qui travaillent le plus possible pour le plus petit salaire. Car comment expliquer autrement que le rendement des fonds de pension soit supérieur au taux de croissance de l'économie? C'est ce qu'avoue ingénument l'économiste Patrick Artus lorsqu'il écrit « L'expérience du passé montre que le rendement de l'argent investi en actions est supérieur à la croissance nominale moyenne de l'économie. La rentabilité totale des actions » sur la période 1992-2022, malgré les crises financières répétées, a été en France de 9,5%, la croissance nominale moyenne de seulement 3%. Qu'en conclure, sinon que la retraite par capitalisation est un hold-up des riches sur les pauvres et sur les classes moyennes. Deuxième bobard que nous servent les ultralibéraux et la droite, la retraite par répartition est fragile car elle dépend de la démographie. Mais c'est faux. Les retraites par capitalisation sont confrontées aux mêmes problèmes de démographie et de productivité que les retraites par répartition. Lorsque la compagnie d'assurance vend les titres financiers achetés au nom des souscripteurs pour permettre à ceux-ci de bénéficier de leur retraite, elle les vend à des actifs. Comme dans la répartition, ce sont les actifs, et ce ne peuvent être que les actifs, qui financent les retraites. Il n'y a pas d'argent magique. Les escrocs qui nous vendent des fonds de pension en nous faisant croire qu'ils s'alimentent à une source différente de celle de la répartition, à une source censément inépuisable, nous vendent en fait de l'eau en poudre. L'eau en poudre, c'est de la poudre. On verse dans un verre et on rajoute de l'eau. Pour faire de l'eau, ça fait de l'eau. Ensuite, la retraite par capitalisation est sûre. Faux, archi faux. Plusieurs pays dans lesquels la retraite par capitalisation occupe une place importante ont connu main des boires lors des différentes crises financières. Aux États-Unis, après l'effondrement des systèmes à cotisation définis. En Suède, lors de la crise financière de 2007-2008, au Royaume-Uni, lorsque, à l'automne 2022, la Banque d'Angleterre s'est portée au secours des fonds de pension en mauvaise posture après avoir pris trop de risques sur les obligations publiques britanniques. Rappelons la ruine des salariés de Maxwell, des salariés d'Enron. Et voyez l'article du Monde diplomatique de mai 2003, écrit par Martine Bullard et intitulé « Les retraités trahis par les fonds de pension ».
On l'a déjà évoqué, l'affaire Enron. Les salariés d'Enron étaient obligés de cotiser à une retraite privée Enron. Et en fait, Enron a joué au Monopoly sur les places boursières avec le pognon. Et un jour, ils ont dit, écoutez, votre retraite, on est désolé, mais on l'a joué, on l'a perdu, et allez vous faire voir. Et donc, ces gens qui avaient cotisé pendant des années dans le truc de retraite de leur propre boîte, se sont retrouvés gros gens comme devant.
Tout à fait. Je crois que ça doit être en 2008 qu'il y a eu 100 000 Américains partis pour prendre une retraite paisible, qui ont été obligés de continuer à travailler ou de reprendre le travail. Et là-dedans, je crois qu'il y en avait 8 000 qui avaient plus de 70 ans. Un gros mensonge. Un gros mensonge. La retraite sera un complément du système par répartition. Faux, archi faux. La capitalisation, non seulement ne peut pas compléter la répartition, mais au contraire, elle a vocation à la cannibaliser. Les hauts rendements des placements financiers s'obtiennent au détriment de l'emploi et des salaires. Les revenus tirés de l'un et de l'autre système, répartition et capitalisation, ne s'additionnent pas sans que l'un, la répartition évidemment, n'y perdent quelque chose. La contribution au régime par répartition s'amenuiseront au fur et à mesure qu'augmentera la montée de la capitalisation. L'OCDE ne s'embarrassait pas de nuances quand elle préconisait une diminution brutale des retraites par répartition pour instaurer la capitalisation à grande échelle jusqu'au sein même des systèmes collectifs, ni quand elle affirmait « les données les plus récentes montrent qu'on peut être actif au sein de la société » alors je souligne, au-delà de 70 ans, et que les incapacités sévères interviennent surtout dans les 2 à 4 dernières années de la vie, ou quand elles suggèrent que, alors je cite, « avant 75 ans, la santé n'est pas déterminante au point de vue de l'activité ». Il n'y a pas que l'OCDE a poussé dans cette direction. En 1994, la Banque mondiale préconisait l'installation de systèmes de retraite fondés sur 3 piliers. Le premier, collectif, garantissant une couverture minimale. Le deuxième, complémentaire et obligatoire, mais géré par des groupes financiers privés. Et le troisième, facultatif et individuel, également géré par de tels groupes. Le FMI déclarait sans embâche, un système par répartition peut déprimer l'épargne nationale parce qu'il crée de la sécurité dans le corps social. On ne saurait mieux dire. Septièmement, la retraite par capitalisation nécessitera des cotisations moins élevées que celles de la retraite par répartition. Faux ! Faux ! À supposer en effet qu'un régime par capitalisation soit instauré, il y aurait nécessairement une longue phase de transition pendant laquelle les générations astreintes au nouveau régime devraient verser des cotisations pour payer les pensions des générations précédentes, encore couvertes par le système par répartition, en même temps que des primes d'assurance pour la constitution de leur propre capital. De cette double charge résulterait d'une part une hausse de l'épargne qui serait peu favorable à l'économie, et d'autre part, une recherche de rendement peu propice à l'engagement dans des investissements de transition écologique de long terme et dont l'objectif n'est pas la rentabilité maximale à court terme. Pour finir, les bonimenteurs des fonds de pension, qu'on pourrait pour le coup appeler des bonis-tirés, menteurs, pour nous vendre leur brouet, présentent le mélange de la répartition et de la capitalisation comme un pâtissier qui vanterait son gâteau au chocolat, à la cerise et à la crème chantilly, comme la forêt noire. Mais dirait-on que le panachage de répartition et de capitalisation s'apparente à ses douceurs ? Que nenni ! Que nenni ! Le mélange de répartition et de capitalisation, c'est comme un gâteau qui serait à la fois au chocolat et au cyanure. En ce cas, la présence du chocolat serait anecdotique. Le seul ingrédient qui produirait un effet serait le cyanure.
L'occasion, Philippe, une fois de plus, de rappeler que de toute façon, de problèmes d'argent et de financement des retraites, comme de financement des salaires des infirmières, de l'hôpital, de tout ça, le problème ne se pose pas, puisque la France est un pays incroyablement riche et que tous les ans, il y a l'équivalent du déficit, c'est environ 100 milliards d'euros, qui fuit dans les paradis fiscaux. On les laisse un peu fuir. Voilà, donc un déficit de la France qui s'aggrave tous les ans de 100 milliards d'euros. Pas étonnant quand on sait qu'il y a 100 milliards d'euros minimum qui partent tous les ans dans les paradis fiscaux, auxquels s'ajoute de la fraude légale, qu'on appelle optimisation fiscale. Donc ça fait jusqu'à 150 milliards d'euros qui tous les ans ne rentrent pas dans les caisses de l'État. Sans oublier, bien sûr, de temps en temps, les cadeaux faits par dizaines de milliards au patronat pour des emplois qui ne sont pas créés. Donc, si les inspecteurs des finances avaient les moyens de traquer la fraude fiscale, non seulement le budget de la France ne serait pas déficitaire, mais il serait même bénéficiaire.
Effectivement, la fraude fiscale, je dis bien parce qu'il y a le contournement légal de l'impôt.
L'optimisation fiscale.
Bon, mais la seule fraude fiscale est de 80 milliards. Il faut mettre ça en regard du déficit imaginé des retraites qui est de 12-13 milliards sur quand même un montant de 350 milliards. Donc il y a de l'argent. Et puis le mettre aussi en regard de l'augmentation du budget de l'armée, de tous les dons qui sont faits à l'Ukraine pour perfectionner l'armée, de la construction d'un nouveau porte-avions nucléaire dans les 20 milliards. Le porte-avions va coûter peut-être deux fois le coût du déficit des retraites. Il y a de l'argent pour l'armée en abondance pour quelque chose qui ne peut nous préparer qu'à la guerre, mais il n'y a pas d'argent pour les retraites.
Une idée nous vient là d'ailleurs. Peut-être qu'une solution comptable pour ne pas payer de retraite pourrait consister à envoyer nos retraités se faire tuer à la guerre, en Ukraine ou ailleurs. Les guerres, c'est pas ça qui manque. Pour la suite de cette émission, on va plutôt parler d'utopie avec André.
Salut.
On se retrouve autour de cet article du Monde Diplomatique, février 2023. On aime bien souvent les articles d'Evelyne Pieyet, qui écrit régulièrement dans le Diplo.
C'est une philosophe qui aborde des sujets qui sont vraiment d'actualité, avec une philosophie qui sert, en quelque sorte.
Imaginaire, au pluriel, de l'avenir. D'avatar aux dissidents de Polytechnique. La résignation présentée comme seule position réaliste face à un présent trop complexe pour être compris par les simples citoyens est une arme au service du maintien de l'ordre. Mais l'imaginaire collectif semble aujourd'hui travailler par le refus du fatalisme et par le désir d'imaginer d'autres visions du monde à habiter. Lénine et mai 68 le disaient déjà, il faut rêver.
C'est un article qui m'a accroché car il parle de tout ce qui obsède mon esprit en ce moment. Le fatalisme et la résignation, la quête de sens, l'avenir, les utopies et globalement l'état de l'opinion publique, ce que pensent les gens, ce qu'ils espèrent ou ce qu'ils n'espèrent pas, etc. Cet article commence par une citation du grand Victor Hugo. « L'avenir arrivera-t-il ? Il semble qu'on peut presque se faire cette question quand on voit tant d'ombres terribles, sombres face à face, des égoïstes et des misérables. » Citation des Misérables, et qui date, je pense, des années 1862 approximativement. Hugo, très sensible à ce que va devenir l'avenir de notre société, nous sommes déjà engagés dans la société capitaliste, avec toutes ses horreurs sociales, etc., se pose la question de l'avenir. Et pour lui, évidemment, l'avenir, c'est un avenir radieux, évidemment, c'est pas cet avenir atroce qui semble se présenter. Donc ça commence par une sorte de réveil de l'utopie. Il y a un réveil de l'utopie chez beaucoup de gens. Comment sortir de l'impasse? Comment rêver à un autre monde possible? D'ailleurs, cette expression « un autre monde possible », je crois que je l'ai vu pour la première fois dans les manifestations, dans des banderoles de la France insoumise, etc. « Un autre monde est possible ». Négativement, il y avait aussi ce slogan « les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère, on n'en veut pas ». De cette société-là, refus de ça.
Un slogan qu'il y avait sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, contre ce grand projet inutile d'aéroport, et le mot d'ordre, si j'ose dire, disait
contre cet aéroport et son monde. Il ne s'agissait pas seulement de lutter contre un grand projet inutile, mais contre ce qu'il représentait, quoi. C'est-à-dire cette soi-disant civilisation du gaspillage, du pillage, de tout.
Oui, et du massacre de la nature et de cette agriculture industrielle mortifère. Alors, les médias dominants ont annoncé depuis un certain temps la fin des idéologies. Les idéologies, c'est fini, c'est terminé, les idéologies. T'sais. Vous remarquerez d'ailleurs sur le...
Même l'histoire d'ailleurs, hein, oui. L'historien américain Fukuyama a dit « Bon, le mur est tombé, bah, l'histoire est finie, refermez les livres. Hein, »
Absolument. D'ailleurs, petite parenthèse, mais enfin, le mot idéologie, hein, dans la bouche de la bourgeoisie au pouvoir... C'est forcément les idéologies de gauche, communisme, socialisme, anarchisme, toutes ces choses-là, c'est l'idéologie. Parce que eux, ils font pas d'idéologie. Comme si le libéralisme, surtout le libéralisme d'aujourd'hui, n'était pas une idéologie, n'était pas une façon de penser et de pratiquer le monde, bien sûr que si. C'est une idéologie.
D'ailleurs, tu remarqueras au passage, chez ces gens-là, quand le mot « gauche » leur arrache la bouche, ils disent « engagé ».
Oui.
Parce que Léa Salamé, par exemple, qui va lécher les fesses de Carlos Ghosn, n'est pas du tout engagée. Pujadas n'était pas engagé à droite et au service des patrons. Bah, oui. Donc, quand ça salit la bouche de dire « de gauche », on prend un air un peu pincé et on dit « oh, tu es un petit peu engagé ».
Oui, c'est ça, exactement. Absolument. En fait, on peut que constater un grand retour de l'utopie. C'est la substance de cet article-là. Alors moi, j'ai toujours été intéressé par l'utopie. Les utopies passées, évidemment, depuis le Moyen-Âge jusqu'à la période moderne, etc. Depuis les mouvements messianiques et millénaristes du Moyen-Âge, jusqu'aux fourriéristes, aux saint-simoniens, aux adeptes des communistes de Gabet, etc., et en passant par Thomas Münzer. Petite parenthèse, hein, le mot « utopie », il a été créé par Thomas More, qui était ministre du roi anglais Henri VIII. D'ailleurs, ça lui a coûté cher parce que il désapprouvait la répudiation d'une reine catholique et donc ça lui a coûté la vie puisqu'il a été condamné à mort. Alors, les marxistes étaient confrontés toujours à l'utopie. Marx a étudié les utopistes, hein, Fourier en particulier a été extrêmement étudié par Marx. Il considérait, Marx, que l'analyse qu'il faisait et les propositions qu'il préconisait pour mettre fin au capitalisme rendaient caduques les utopies passées. Pour lui, son propos n'était pas une utopie, ses propos sur le socialisme, sur la fin du capitalisme. C'était une analyse scientifique. Il se voulait scientifique, rationnel, etc. Et n'était pas un simple rêve d'une société idéale, etc. Mais c'était ce que l'on a appelé le socialisme scientifique, par contradiction avec le socialisme utopique. Et de fait, la révolution bolchevique de 1917 semblait donner raison à Marx, puisqu'il créait dans un pays un socialisme réel. D'ailleurs, on a souvent parlé de ces pays-là comme étant les pays du socialisme réel, du socialisme en action. Même la social-démocratie, qui s'était éloignée des thèses de Marx dès le début du XXe siècle, cette social-démocratie prétendait aussi établir un socialisme, même sans les préconisations de Marx, mais enfin un socialisme quand même, c'est-à-dire une société différente. Hélas, l'échec et l'effondrement des pays d'économie socialiste, hein, avec l'URSS en 1990 en gros, hein, met fin à ces pays. Il semble y avoir un échec de cet essai d'une autre société, d'une société différente. Alors ce qui est très nouveau aujourd'hui, hein, je reviens à l'article quand même, par rapport aux utopies des 19e et 20e siècles, c'est évidemment l'irruption de l'écologie dans la pensée révolutionnaire. On peut d'ailleurs penser que c'est le retard à intégrer cette dimension fondamentale qui a coûté la vie au mouvement communiste. Ces gens ont été longs à réagir.
Il y a une poignée d'années de ça, le Monde diplomatique a fait un papier assez surprenant. Alors Marx, évidemment, Le Capital, c'est une œuvre colossale, il y a des milliers de pages, etc. Donc il a parlé de beaucoup de choses. Mais Le Diplo, dans cet article, soulignait que la question écologique avait aussi effleuré Marx et qu'il en parle, en fait, de l'homme et de son rapport à la nature. Bon, alors, tout ça est peut-être noyé dans des tas d'autres analyses, mais c'était une question à laquelle il avait aussi pensé et qui est aussi couchée dans Le Capital.
Bien sûr, il y a une interrogation. Elle n'est pas aussi vive qu'aujourd'hui, parce que à l'époque de Marx, hein, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, le massacre de la nature n'est pas aussi patent qu'aujourd'hui. Le massacre des sociétés, oui. Une partie importante du manifeste communiste de Marx et d'Engels parle de ce massacre des sociétés anciennes, et de tout ce qu'ils représentaient et de leur rapport aussi avec le monde, avec la nature, par le capitalisme qui marchandise tout, qui transforme tout en marchandise, en profit, etc., sans tenir aucun compte de ces sociétés et qui massacre du social. Donc il en parle quand même, on ne peut pas faire dire à Marx ce qu'il ne pouvait pas dire en 1860 ou en 1870, tout simplement parce que la question écologique n'était pas aussi prégnante en quelque sorte qu'aujourd'hui. Dès les années 70, l'idée que le problème écologique se posait également dans les sociétés se prétendant socialistes ou communistes s'est développée. Il y avait des gens qui disaient, mais vous voyez, les communistes aussi, en Russie, ils massacrent de la nature. Regardez la mer d'Aral, etc., la désertification de certaines zones, etc., des steppes, et tout comme ça. Bon. Et René Dumont le disait, il disait, si la Chine, et il parlait de la Chine communiste évidemment, se développe comme les pays occidentaux, on va vers la catastrophe. Il le disait dans les années 70, donc on ne peut pas dire que l'interrogation est toute nouvelle.
René Dumont est notamment l'un des premiers écologistes emblématiques du paysage politique français qui, en 1974, s'était présenté à la campagne présidentielle et dans son spot de campagne, il s'était pointé à la télévision avec un verre d'eau en disant « Vous voyez, ce truc-là, ça vous semble banal, ça vous semble commun, pourtant c'est une authentique richesse qui est en danger. » Et en 74, la plupart des gens s'étaient foutus de sa gueule, parce que l'eau, ça coule du robinet, tout le monde sait ça. Et imaginer qu'on pourrait en manquer semblait à l'époque absurde.
L'URSS et la Chine se développaient selon un modèle productiviste, très peu soucieux de la biosphère. On le voit aujourd'hui. Donc ce qui est mis en cause aujourd'hui, c'est pas seulement le capitalisme, c'est le modèle productiviste et c'est le modèle de marchandisation de la nature, etc. Donc il y a une interrogation et une contestation globale du système, pas seulement dans la justice sociale. Si on veut créer un modèle révolutionnaire, il faut y intégrer absolument de façon complète, fusionnelle, ces deux préoccupations, les préoccupations de la société humaine et mondiale, et de le problème du respect et des rapports de l'homme avec la nature, la biosphère, le vivant, etc. Alors, bien sûr, il ne faudrait pas, c'est un petit peu ce qui est pointé par Evelyne Pieyer, supprimer le social. Elle appelle ça la brumisation du problème social, moi j'appellerais ça une sorte de dispersion du problème social, évacuation, fonctionnement du système de production et d'échange dans la contestation. Ce qui n'est pas simple, parce qu'il faut de front mener ces deux combats, qui sont le même, qui sont le combat pour des sociétés humaines dans une nature dont les rapports avec l'humanité sont apaisés, sont harmonieux. Donc il y a un nouvel humanisme à créer, c'est certain, et c'est pas simple, parce qu'en fait ce qui se passe souvent aujourd'hui, c'est que parfois les deux combats s'excluent, et c'est très dommageable, aussi bien pour l'écologie que pour la contestation sociale et économique globale.
Tu vois, l'émission en ce moment est à cheval sur deux trucs. Le combat anti-bassine contre le pillage des nappes phréatiques, qui, moi, me traumatise. Je suis omnubilé par le fait qu'on est rentré dans soleil vert et que ça va mal se mettre. Vous avez aimé l'été caniculaire 2022, vous allez adorer l'été 2023 et ceux qui vont suivre. Et c'est pour ça que quand le mouvement social là sur la réforme des retraites a repris, j'y suis allé, évidemment, parce que depuis 25 ans, on est solidaire et on essaye de lutter comme on peut contre les casses de tous nos services publics, hôpitaux, écoles, transports, énergie. La retraite, on y est depuis 95, la réforme Juppé, donc si tu veux, c'est pas un combat nouveau. Mais moi, à l'aune des méga-bassines, si tu veux, j'entends aussi les gens gloser en disant « Ouais, 62, 64, 73, ce sont des questions légitimes, je veux que mes amis, mes parents touchent leur retraite jusqu'au bout parce qu'ils l'ont bien mérité. » Mais tu vois, à l'aune, d'un seul coup, d'une brusque pénurie d'eau au robinet, je me dis « Mais comment vont nous apparaître ces questions d'annuité quand on n'aura plus de flotte qui coulera ?» Or, tu as raison de le dire, c'est un tout. On ne peut pas combattre l'un sans se passer de l'autre et inversement.
Bien sûr. Alors il faut passer à autre chose que le capitalisme. Il faut imaginer un autre monde avec d'autres rapports avec le vivant, avec la nature et l'ensemble de la biosphère. Il ne faut pas exclure les deux volets de cette lutte. Il faut absolument les rendre solidaires. Comment imaginer la modification des rapports de l'homme avec la nature sans avoir le contrôle des politiques, c'est-à-dire des actions des sociétés sur l'ensemble de ces problèmes? Le système libéral, ultra-libéral aujourd'hui, mondialisé, s'est arrangé pour liquider les pouvoirs des sociétés humaines, des collectivités humaines, des États, de façon à les rendre parfaitement impuissants et de façon à laisser le champ libre aux grandes multinationales et aux puissances d'argent qui dirigent le monde et qui orientent le monde vers la catastrophe. Comment mettre fin à ce système de domination du monde par le profit la prédation capitaliste sans avoir des moyens. C'est un petit peu le même problème que le proudhonisme et l'anarchisme au XIXe siècle et de l'autre côté le marxisme. Les anarchistes, les proudhoniens disaient « Oh bah, les marxistes, les partisans du communisme, etc. » C'est la même chose, c'est toujours des gens de pouvoir et le pouvoir est intrinsèquement mauvais. Par définition, il est mauvais le pouvoir. Il corrompt, la politique c'est de la corruption. Il faut que les gens se débrouillent eux-mêmes, se fédèrent, contrôlent leurs instruments de production, etc. Et de cette façon-là, on va mettre fin, en quelque sorte, au tare principal du capitalisme.
J'ai le même problème avec quelqu'un qu'on aime beaucoup dans cette émission, qui est le sociologue et philosophe Bernard Friot, mais à qui j'ai eu l'outrecuidance de poser plusieurs fois la question jusqu'à ce qu'il m'envoie au plot, en disant « Oui, bon, Bernard, c'est très bien, d'accord, il faut tout changer, et puis créer tout un tas de trucs formidables. » Mais avant d'accéder au cockpit de pouvoir où on peut appuyer sur le bouton, déverser du fric sur les pauvres, on fait comment pour y parvenir? Alors ça, Friot, par contre, comment on fait pour prendre le pouvoir ou pour mettre en place ces politiques? Ça l'intéresse pas du tout, et voire même, ça l'ennuie profondément comme question. C'est bon, écoutez, ne nous embêtez pas avec ces questions logistiques, mais quand on aura le pouvoir, on ne sait pas comment on le prend, mais quand on aura le pouvoir, on sera gentil avec les pauvres.
Moi, je pense quand même c'est se condamner à l'impuissance totale, aussi bien sur le plan social que sur le plan écologique. À partir du moment où tu ne veux pas avoir les leviers, tu ne contrôles rien. Alors, il faut s'arranger pour que ces leviers soient des leviers de la société entière, et non pas que d'un certain nombre d'arrivistes, etc., et d'opportunistes. Mais quand même, il faudra de toute façon se poser ce problème-là, parce qu'on ne mettra pas fin à la malfaisance de ces puissances gigantesques. Si vous imaginez ce que peut être Bayer, Monsanto, Standard Oil, etc., enfin, laboratoires pharmaceutiques, plus l'agroalimentaire, etc., par rapport à nous, ces gens sont puissants pour les abattre. Il faudra du pouvoir. Et le pouvoir, c'est forcément de la politique. Et donc, on ne peut pas, en disant, bah, on va changer les mentalités, hein. De salauds cupides, on va devenir des gentils humanistes, amis des animaux, des bêtes de la nature, etc. Mais non. Rien, simplement pour mettre fin à des méthodes de pêche qui massacrent les océans. Il faut du pouvoir politique. Il faut de la réglementation, des interdictions. Ça me ramène aux utopies actuelles et à leurs expressions. Évelyne Pieyer, dans son article, évoque le film Avatar 2, film qui aborde de façon poétique et en même temps assez directe les rapports de l'homme et des êtres vivants qui l'entourent. C'est une dénonciation de l'exploitation cupide, féroce, destructrice de l'ensemble de la biosphère par les humains, une transformation de toute vie en marchandise. C'est ça le capitalisme, c'est la marchandisation de tout, du vivant, de tout. Hein. Le capitalisme, c'est la marchandisation, et la marchandisation, c'est le capitalisme. Hein. Je dis ça comme ça au passage, parce que lorsqu'on utilise le mot « ah bah vous faites encore de l'invocation », etc. Non, mais je dis simplement la réalité. Hein. Il y a des capitaux derrière, des actionnaires derrière, des conseils d'administration. Il va falloir mettre les mains dans le cambouis, si on veut vraiment mettre fin à ces choses-là. Donc il faut un autre rapport de l'humanité avec les êtres vivants qui l'entourent, etc. Donc une révolution, un changement radical. Hein, il est vrai qu'il y a un développement aujourd'hui d'une quantité de mouvements philosophiques contre les violences contre les animaux, contre, etc., pour le végétalisme, etc., la nourriture sans viande, etc., contre l'exploitation du vivant, en quelque sorte. Hein. Il faut donc un autre discours, c'est assez clair. Il faut pouvoir intégrer ces choses-là sans pour autant y adhérer entièrement. Parce que bon, on va pas faire passer la totalité du mouvement révolutionnaire dans le végétarisme. Mais il est bien évident qu'il faut intégrer ces notions, c'est-à-dire arriver à faire un autre monde avec d'autres rapports avec le vivant. Donc il y a aspiration donc à un nouvel humanisme, dépasser l'individualisme égoïste et mortifère. Alors, Évelyne Pieyer donne trois exemples de révolte d'individus qui se lèvent contre ça. D'abord, AgroParisTech, des élèves d'une école prestigieuse d'agronomie et de technique agricole, ont fait un appel pour un autre monde.
Les diplômés de 2022 sont aujourd'hui réunis une dernière fois après 3 ou 4 années à AgroParisTech. Et nous sommes plusieurs à ne pas vouloir faire mine d'être fiers et méritantes d'obtenir ce diplôme à l'issue d'une formation qui pousse globalement à participer aux ravages sociaux et écologiques en cours. Nous ne nous considérons pas comme les talents d'une planète soutenable. Nous ne voyons pas les ravages écologiques et sociaux comme des enjeux ou des défis auxquels nous devrions trouver des solutions en tant qu'ingénieurs. Nous ne croyons pas que nous avons besoin de toutes les agricultures. Nous voyons plutôt que l'agro-industrie mène une guerre aux vivants et à la paysannerie partout sur Terre. Nous ne voyons pas les sciences et techniques comme neutres et apolitiques. Nous pensons que l'innovation technologique ou les start-up ne sauveront rien d'autre que le capitalisme. Nous ne croyons ni au développement durable, ni à la croissance verte, ni à la transition écologique, une expression qui sous-entend que la société pourra devenir soutenable sans qu'on se débarrasse de l'ordre social dominant.
AgroParisTech forme chaque année des centaines d'élèves à travailler pour l'industrie de diverses manières, trafiquer en labo des plantes pour des multinationales qui renforcent l'asservissement des agricultrices et des agriculteurs, concevoir des plats préparés et ensuite des chimiothérapies pour soigner les maladies causées, inventer des labels bonne conscience pour permettre aux cadres de se croire héroïques en mangeant mieux que les autres, développer des énergies dites « vertes » qui permettent d'accélérer la numérisation de la société tout en polluant et en exploitant à l'autre bout du monde. Pondre des rapports RSE d'autant plus longs et délirants que les crimes qu'ils masquent sont scandaleux. Ou encore compter des grenouilles et des papillons pour que les bétonneurs puissent les faire disparaître légalement. Ces jobs sont destructeurs et les choisir, c'est nuire en servant les intérêts de quelques-uns. C'est pourtant ces débouchés qui nous ont été présentés tout au long de notre cursus à AgroParisTech. En revanche, on ne nous a jamais parlé des diplômés qui considèrent que ces métiers font davantage partie des problèmes que des solutions et qui ont choisi de déserter.
Ça a fait beaucoup de retentissement, ce truc-là. Ces jeunes gens qui reçoivent leur diplôme et qui disent « nous, on ne veut pas marcher pour le capital ».
Ben oui, ils s'appellent à déserter les carrières qui les attendent, autrement dit les jobs destructeurs de l'agro-industrie, etc. Enfin, ils ont été d'ailleurs relayés par des élèves de l'École nationale supérieure agronomique de Toulouse, l'ENSAT, qui disent à peu près la même chose, c'est-à-dire qu'il faut créer des futurs désirables, plus justes, plus égalitaires. Juste et égalitaire dans un truc sur l'agriculture. Il est évident que l'agriculture est au centre. L'agriculture d'aujourd'hui, l'agriculture industrielle, productiviste, est destructrice de l'humanité entière, des sols, des cours d'eau. Elle établit un rapport avec les animaux, avec le vivant, qui est absolument mortifère, c'est évident. Il faudra passer à autre chose, il faut changer ça. C'est pas simple, hein, parce que tout notre système agroalimentaire et de commerce agricole mondiale est basée là-dessus aujourd'hui. Le reste devient un peu marginal en quelque sorte. Et donc, faut de ce système archi-dominant, il faut passer à autre chose. C'est pas simple, il faudra le faire. Et donc, il faudra qu'un des pouvoirs politiques impose d'autres manières d'exploiter la terre. Parce que tu parlais de l'eau tout à l'heure. Parlons de la terre maintenant. Il y a des spécialistes, des agronomes tout à fait sérieux, qui disent que dans des régions entières d'agriculture industrielle, le sol lui-même, c'est-à-dire le sol agricole, il est dégradé, profondément dégradé, il n'y a plus de vie.
Plus que du substrat, quoi.
C'est ça, c'est un substrat auquel on apporte des éléments nutritifs, etc., artificiels eux-mêmes, etc. Bon, j'ai fait de la fouille archéologique de surface sur 200-300 mètres carrés en Seine-Maritime dans les années 70. Déjà en Seine-Maritime, dans les années 70, c'est pas aujourd'hui, hein, il y a 50 ans, hein, quelques ans. Ces sols étaient sans vers de terre, sans vie. C'est une très belle terre, la Seine-Maritime, c'est un très beau limon éolien du Quaternaire, sur des grosses épaisseurs parfois, c'est une terre magnifique, extraordinaire. Hein. Eh bien, cette terre a été dégradée par l'agriculture industrielle. Vous rendez compte que dans certains coins, on y a répandu de l'ammoniac pour que ce soit des formes d'azote plus faciles à assimiler par les plantes. De l'ammoniac. J'ai vu même mettre des défoliants sur des pommes de terre de semences pour avoir des petites pommes de terre à planter, etc. Il faut arrêter la végétation. Alors on pourrait bien sûr hacher menu les fans, mais pour aller plus vite, on y met des défoliants. Un peu comme au Vietnam, les Américains ont mis des défoliants sur des milliers d'hectares pour pouvoir exterminer les Vietcong. Bon, ils ont empoisonné des milliers d'hectares de terre. Donc il faut faire autre chose, une autre agriculture, etc. Et je trouve que l'initiative de ces jeunes gens est vachement encourageante. Il n'y a pas que des petits salopards qui veulent faire leur carrière en empoisonnant le reste de l'humanité et en participant au super enrichissement de l'agro-industrie. C'est quand même vachement encourageant. Ces gens-là mettent leur carrière en jeu, en quelque sorte. Il a fallu ces gens-là, des gens courageux, pour commencer. C'est des gens qui donc tendent vers une utopie concrète, en quelque sorte. Il faut changer le système. Alors ça ne va pas être simple, hein, parce qu'aujourd'hui, bon, les pouvoirs politiques sont acquis à l'agro-industrie, hein. J'ai encore entendu le ministre de l'Agriculture, puis le ministre de la Transition écologique du gouvernement Macron s'exprimer sur l'eau, sur les trucs comme ça. Bon, ces gens-là ne sont pas prêts à rentrer dans la gueule de la FNSEA. Hein.
Je reviens à nos histoires de bassines. Sachez, les amis, que si vous payez des impôts, ces installations sont financées avec de l'argent public, hein, aussi. Donc voilà, on vide nos nappes phréatiques et c'est financé par le contribuable. C'est merveilleux.
Voilà. Un peu plus loin, Evine Payet évoque l'opinion publique, l'état de la pensée de la majorité des gens en France. Alors, ils font des enquêtes. Alors, bien sûr, ces enquêtes, elles peuvent toujours être contestées, mais enfin, bon, elles portent sur des milliers quand même de gens qui sont questionnés. Où en est l'opinion publique sur l'avenir? Quel avenir, comme disait Victor Hugo? Avons-nous encore un avenir? Alors là, le constat est quand même assez décourageant, semble-t-il. Le pessimisme fait rage. Enfin, en même temps, il y a deux attitudes, deux réactions chez les gens. Le pessimisme en disant « on ne peut rien faire, le réchauffement est inévitable, on va vers l'empoisonnement, etc. » Bon. Et avec une grande méfiance à l'égard de la science. Ça aussi, c'est une chose grave, parce que la science, elle peut être mise au service des salopards, des empoisonneurs, mais elle peut être mise aussi au service des gens qui veulent préserver la nature. Et donc, mettre en cause en permanence la science, c'est pas bien. Il faut simplement réorienter la science vers autre chose. Permettre aux chercheurs... Qui paye le mieux les chercheurs, aujourd'hui? C'est les salopards du capitalisme industriel, financier, etc. Pourquoi est-ce que les jeunes qui sortent des écoles comme ça, il faut qu'ils soient des héros pour résister à ça? Ben non, ils vont s'embaucher là où on leur offre les meilleurs salaires. Donc il y a des choix politiques à faire. Sinon, ça continuera comme ça. Et ça va être pire encore. Après ce pessimisme, le deuxième aspect, c'est quand même que les gens sont révoltés. Ils veulent autre chose. Ils ne savent pas trop quoi. 48% des gens sont pour un mouvement social dur.
En cette fin de février 2023.
1 sur 2 souhaite une explosion sociale. Et les gens ne sont pas optimistes. Ce que j'examine aussi, je n'irai pas dans le détail, l'article d'Evelyne Plier, mais c'est la vogue des dystopies et des séries science-fiction horrifiques qui sont en quelque sorte l'expression d'une interrogation. Le retour en force des zombies, quoi, des morts-vivants. C'est une préfiguration métaphorique, enfin, de ce que peut être notre société, c'est-à-dire la moitié des gens qui veulent bouffer l'autre moitié des gens, quoi. Et la moitié favorisée, s'enfermant dans une bulle pour se protéger, payant fort cher des gens pour tirer sur les gueux qui veulent les bouffer, quoi. Parfois, ces récits sont très intéressants et d'abord révélateurs de la société américaine. On va dire quand même que la plus achevée de ces dystopies épouvantables, c'est la société américaine elle-même, en quelque sorte, hein, où là, il y a de véritables zombies, hein, bon. Mais ces récits permettent de métaphoriser les luttes sociales et politiques. En ça, elles sont extrêmement intéressantes. Il faut les examiner. Il y a un autre aspect également qui est abordé par Evine Pieyé. Ce sont ces îlots très intéressants de zadistes qui veulent sortir du truc. Alors, il y a un double aspect dans ces actions-là. Il y a les gens qui veulent couper les contacts avec les sociétés atroces dont ils ne veulent plus. Un ras-le-bol. Les gens ne supportent plus de vivre dans cette société. Et en ça, évidemment, on les comprend. Cette société est, par certains côtés, atroces. Ils n'en veulent pas pour leurs enfants, pour eux-mêmes, etc. Bon. Et en même temps, il y a aussi une volonté d'essayer de généraliser, en partant du bas, en partant d'une remise en cause parfois violente. C'est pas moi qui les condamnerai pour la violence, parce qu'on a vraiment envie de prendre la Kalachnikov quand on voit certains trucs. Bon. Mais cependant, à partir d'actions, etc., d'essayer de briser le système, d'arrêter le système.
Kalachnikov, c'est un peu engagé, André. Hein.
Je vais aggraver mon cas. Moi, je pense que ces gens-là ont raison de mettre en cause. Et ils font bien de mettre le doigt là où ça fait mal. Ils font bien de mettre le nez de la société dans le caca de la société où on est aujourd'hui. Et moi, je pense que ces gens-là sont estimables, profondément estimables. Alors, je vais peut-être être condamné pour incitation à la violence, mais je pense que, vu l'état désastreux de la gauche aujourd'hui, parce que bon, il y a bien sûr des gens qui se battent bien dans la gauche, hein, je ne veux pas jeter le mépris sur l'ensemble des gens de gauche. Il y a en particulier chez les insoumis des gens éminemment estimables, et je pense qu'il y a dans l'opinion publique des gens qui veulent réellement changer et se donner les moyens du changement. Cependant, globalement quand même, la gauche est au fond de l'abîme. La quasi-liquidation du Parti communiste, etc. Les divagations des écologistes. Quand j'entendais encore ce matin une écologiste faire l'apologie de la guerre en Ukraine, c'est vous dire l'état de dégradation profonde du mouvement écologique politique.
peut-être avec des chars bio.
Les radiations atomiques de la prochaine guerre leur font moins peur que les centrales nucléaires. En face de cette ineptie et des maladresses et des insuffisances de cette gauche-là, on comprend l'impatience des gens. C'est toujours comme ça d'ailleurs. Il y a un moment donné, il y a impatience. Il faut que ça pète, quoi, en quelque sorte. Je fais quand même confiance à l'avenir. Je ne veux pas insulter l'avenir. Hein. Moi, la dernière phrase de Elvin Pied, c'est « Il reste tant à démolir et tant à inventer ». Je la reprends à mon compte entièrement.
Dans les réactions qui sont suscitées aujourd'hui, parce que beaucoup ont compris que voilà, faire le tour de la ville dans des marches pour le climat, pour dire que les dauphins sont gentils, c'est sympa, mais ça a ses limites. Il y a aussi, fort de l'expérience, notamment de Notre-Dame-des-Landes, partiellement victorieuse, j'aimerais vous faire une série d'émissions, mais je cherche des interlocuteurs outrices, pour ça, sur ce mouvement que je trouve très intéressant, qui s'appelle les soulèvements de la Terre, qui s'illustre notamment avec du sabotage de méga-bassines. Alors c'est très con une méga-bassine, apparemment il suffit d'un cutter, et puis d'un machin pour dévisser les boulons, pour désarmer, comme ils disent, hein, le cutter pour découper la bâche, et les boulons pour désarmer la pompe. Et j'ai eu la surprise, je vous avoue que ça m'a pas fait pleurer, d'apprendre que dans les Bouches-du-Rhône, fin décembre, c'était signalé par un article du Parisien, si bien écrit que j'ai cru y reconnaître la plume des renseignements généraux, tellement c'était bien renseigné. Dans cet article, on pointait déjà les vilains talibans verts. Ces gens ont procédé dans les Bouches-du-Rhône fin décembre à un sabotage d'un incinérateur appartenant à Lafarge. Donc des gens qui n'ont pas du tout vendu du béton aux nazis ou à Daesh. Des capitalistes très vertueux, comme c'est un euphémisme, capitalisme vertueux. Tu vois, au lieu de faire des manifs et perdre des journées de salaire, ben, y a de ces gens qui vont aussi taper le capitalisme dans les couilles. Il y a grand coup de pied, parce que faire des manifs, c'est bien gentil, mais saboter l'outil de production, ça fait pas rire Lafarge du tout. Et le fameux incinérateur, là, dans les Bouches-du-Rhône, saboté fin décembre, apparemment, est resté inopérant pendant une semaine. Et donc, pendant une semaine, les habitants qui habitent autour n'ont pas été arrosés des traditionnelles dioxines fabriquées et répandues par cette merde. Philippe ?
J'écoutais il y a quelques jours Macron qui disait « Je vais demander au patron de Total, Pouyanné, de faire un geste, que le président de la République demande humblement à un patron d'un grand groupe capitaliste, est-ce que vous pouvez me faire un petit peu l'aumône d'un geste comme ça ? Quel est le pouvoir de la démocratie quand le président de la République en est à quémander et qu'il ne dise pas « je suis le président de la République, j'ai une légitimité qui est celle d'avoir été élu ». Désormais, je dis, voilà, le litre d'essence, il est à 1,50€, point.
Avant d'être président de la République et représentant du peuple, Macron est surtout un larbin de banquiers et de capitalistes, et il demande l'autorisation à son patron de lui adresser la parole.
C'est vrai, mais je trouve ça surprenant que dans un pays où le pouvoir, la souveraineté émane du peuple, qu'on en soit à prendre ce ton humble et soumis devant un grand patron.
Macron parle poliment à son employeur. André, dans cette émission qui parle d'histoire, il y a certaines utopies pour lesquelles des gens ont lutté, parfois dans le sang, la mort et au prix d'immenses sacrifices, mais des tas de choses qui étaient des utopies sont devenues des réalités. Par exemple, alors ça c'est remis en question en ce moment, mais par exemple, payer des gens qui ne travaillent pas, ou du moins leur accorder un salaire différé. Ne pas envoyer des gamins au fond de la mine pousser des wagonnets, mais plutôt les mettre sur des bancs d'école. Allez, soyons fous, donner le droit aux bonnes femmes de voter. Tout ça, ça a été des utopies, jusqu'au moment où, après des luttes qui ne se sont pas faites toutes seules, ces utopies maintenant sont plus et sont devenues notre quotidien. D'ailleurs, on a parfois tendance un peu à l'oublier.
Oui, mais ces combats ont été menés par des gens de la gauche, souvent par des communistes récemment, etc. Donc, ils font l'objet de l'amnésie, c'est-à-dire qu'on les oublie. Et ces combats n'entrent pas dans la mémoire, ne sont pas cultivés. Et on donne l'impression aux jeunes que ça a toujours existé. Il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est que dans ce combat pour une autre écologie, une autre économie, un autre monde possible, il y a aussi une chose nouvelle dont je n'ai pas parlé dans mon papier, mais ça fait venir au combat des gens qui sont issus des classes privilégiées, de la bourgeoisie. Une partie de la bourgeoisie s'interroge et pense qu'effectivement, il y a quelque chose à faire parce que ça touche tout le monde, la dégradation de la nature. Ça touche aussi les prolétaires, hein, je veux dire, ils n'ont pas seulement la misère, ils ont aussi la dégradation du monde. Mais dans les classes moyennes, de petites moyennes bourgeoisies, etc., tu as des gens qui se disent il faut qu'on change de système.
Les révolutions sont souvent encadrées par des gens un peu lettrés, un peu middle class, oui, un peu machin. Ça. Parce que le prolétaire, avant de faire la révolution, il est surtout obsédé par l'idée de survivre et de faire bouffer sa famille. Bon, je ne vais pas dire que la révolution, c'est un truc de bourgeois, mais enfin...
Oui, mais là, en l'occurrence, je cherche, moi, désespérément, des leaders qui prendraient la mesure du problème et qui l'aborderaient dans ces deux dimensions dont nous avons parlé, c'est-à-dire les dimensions écologiques, bien sûr. Changer de système, c'est pas seulement envoyer un petit colis au Bangladesh, hein. C'est modifier le commerce mondial, l'agriculture mondiale, c'est changer réellement de système. Je m'excuse quand je vois l'expression politique de l'écologie en France, en tout cas, mais en Allemagne, c'est à peu près la même chose, hein. Je vois des gens qui sont des petits conservateurs, qui sont pour faire chier le monde avec le gazole ou avec l'électricité. Alors, ils sont pour les voitures électriques, mais ils sont contre le nucléaire. On se demande comment ils vont produire l'électricité nécessaire à leur changement, enfin, etc., etc. Bon, ils veulent bien ici concéder qu'on va isoler quand même les logements les plus misérables. Mais dans l'ensemble, il n'y a pas de changement de système, il n'y a pas de changement de logique.
Ça, c'est une frange d'Europe écologie les Verts, effectivement, celle qui pense comme Jadot que l'écologie est compatible avec l'économie de marché. Cela dit, la moitié du programme de la France insoumise, en gros, concerne l'écologie, l'éolien, l'utilisation de marées motrices, etc. Tu le sais, t'as voté pour eux comme moi. La France insoumise, notamment, voilà, c'est des gens qui sont sur le sociétal et l'écologique. Justement, les quelques centaines de milliers de voix qui manquaient pour que Méluche, un certes qui est très critiquable, qui peut agacer à l'occasion, etc., n'empêche qu'il n'y aurait pas eu cette trahison de faux écologistes, de faux socialistes et machin, les quelques centaines de milliers de voix qui manquaient pour que Méluche soit au deuxième tour, elles étaient là. Donc la formation, elle existe. Je veux dire, tout a été fait pour la saboter et ça a bien fonctionné. Alors je rassure nos auditeurs qui seraient éventuellement inquiets, hein, je ne suis pas encarté à la France Insoumise, je n'ai pas de poster de Mélenchon au-dessus de mon lit, et des fois même, il m'agace.
Oui, je suis d'accord avec toi. J'étais peut-être un petit peu radical et un petit peu négatif. C'est parce que aussi, tu comprends, ils se heurtent encore en fin de compte à une opinion publique qui majoritairement, quand elle vote, parce que le problème à l'opposé, ou à l'inverse, ou en tout cas en face, c'est que les classes populaires ne votent plus. Elles ne se sentent pas solidaires de l'écologie. Pour ces classes populaires, en une grande partie, l'écologie est un problème de petits bourgeois, de bobos citadins, etc., qui n'y connaissent rien, ni à l'agriculture, ni à l'artisanat, ni au travail industriel, ni rien du tout. Et ces gens-là ne font que les emmerder, ne leur portent rien. Je caricature à peine. Bon. Ce qui fait que donc ils votent plus. Et ils n'ont plus confiance dans la gauche qui les a effectivement légèrement trahis, hein, pendant les 30, 40 dernières années avec les socialos et avec les communistes qui battaient en retraite, etc. Donc, ça va être dur. Il faut mobiliser les gens, il faut les mobiliser là-dessus. Et il faut les mobiliser sur les deux terrains. On veut bien redistribuer du revenu, mais il faut changer les habitudes, il faut changer nos rapports avec la bouffe, l'agriculture, la consommation d'eau, la pollution, etc. Il faut faire les deux ensemble. Pour l'instant, effectivement, je concède, les insoumis sont la meilleure expression de ce changement. D'ailleurs, la haine qu'ils suscitent à droite, à mon avis, est de bon signe. Ils ne doivent pas être complètement mauvais pour les exciter comme ça. On a vu ça aux dernières discussions à l'Assemblée. Ils les ont bien embêtés, bien emmerdés. Et c'est plutôt bon signe. Il y a des gens comme Ruffin, qui sont des gens tout à fait admirables, qui tiennent le bon bout de la question. Et effectivement, il y a toute une partie du programme des Insoumis qui est un programme purement écologiste.
Et voilà les amis, c'est ici que prend fin cette conversation avec nos amis lecteurs du Monde Diplomatique, mensuel génial qu'on vous incite à lire autant que possible. Cette émission est à retrouver sur notre site, polemixetlavoixoff.com, avant qu'on ne se retrouve très bientôt dans la rue et sur cette même antenne. On vous le redit une dernière fois pour aujourd'hui, il reste tant à démolir et tant à inventer. Ce n'est qu'un combat, continuons le début. Salut!
Terminé. Les petits comptes alternatifs doivent s'arrêter maintenant.